Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes d'Indifférence, l'émission qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Elisa, étudiante en physique et qui a des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Selon le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, les troubles des conduites alimentaires se caractérisent par des perturbations persistantes de l'alimentation ou du comportement alimentaire, entraînant un mode de consommation pathologique ou une absorption de nourriture délétère pour la santé physique ou le fonctionnement social. Les TCA comprennent notamment l'anorexie, la boulimie ou encore l'hyperphagie. Là, ce que je viens de lire, c'est la définition scientifique, médicale. Comment est-ce que tu définirais les TCA avec tes mots ?
En vrai, je pense que c'est vraiment compliqué parce que c'est chaque personne qui mettrait sa propre définition parce que ça peut varier beaucoup d'un individu. Surtout que du coup, on a l'idée de ces trois catégories et souvent, en fait, elles vont être beaucoup mêlées et on peut alterner entre pas mal de phases et compagnie. Après, sur le fond, on va dire que les mécanismes restent les mêmes, mais c'est juste que ça dépend vraiment de chacun. Et
parce que par exemple, si là il n'y avait pas la définition que je t'ai lue, comment tu expliquerais les TCA à un enfant ?
Alors moi je dirais que c'est surtout en fait avoir une relation à la nourriture qui n'est pas naturelle, dans le sens où, en tout cas pour moi, je vais beaucoup intellectualiser et réfléchir à ce que je mange, pourquoi je le mange, quand je le mange, en quelle quantité. Et c'est aussi beaucoup dans mon rapport à mon corps. C'est-à-dire que je vais beaucoup avoir ma confiance en moi qui est liée à mon apparence et à ce que je mange, en fait. Donc je dirais que c'est vraiment, en fait, un rapport à la nourriture qui est réfléchi et anticipé plutôt que naturel.
Et une question que je pose à chaque fois, c'est comment tu te définis ? Est-ce que tu as l'impression que le mot de handicap te correspond ? Est-ce que tu préfères les termes de maladie, de trouble, de différence ? Est-ce qu'il y a d'autres mots même qui sont en dehors du champ médical qui te parlent plus ?
En vrai, je ne m'étais jamais trop posé la question jusqu'à que tu me poses la question justement. Parce que du coup, par le domaine médical, c'est défini comme une maladie mentale. Et en vrai, je me retrouve aussi dans cette définition parce qu'il y a l'idée que déjà on tombe dedans. C'est-à-dire que même si on peut avoir, par exemple, des traits de personnalité qu'on retrouve chez les personnes qui sont atteintes de TCA ou même des facteurs génétiques, c'est quand même une idée que on tombe en fait dans les TCA et on l'a pas, c'est pas inné ou quoi que ce soit. Et aussi, on retrouve l'idée qu'on doit le combattre et lutter en fait, comme vraiment c'est une maladie et on doit vraiment, en tout cas, moi mon psy m'a répété qu'il fallait vraiment que je me distingue de mon TCA et que c'était quelque chose qu'il fallait que je lutte. Et aussi, un autre truc, c'est que on peut jamais réellement guérir. Enfin, en tout cas, on peut guérir, mais à tout moment, sous trop d'émotions ou un coup de stress ou un événement traumatisant, on peut retomber dedans. Et du coup, c'est un peu l'idée aussi de quand on est malade, on garde à jamais les traces des anticorps en fait dans notre sang. Du coup, en vrai, je me reconnais pas dans la définition de maladie, mais moi, comment je le perçois plus au quotidien, c'est plutôt comme un trouble parce que ça perturbe plutôt ma façon de vivre, de m'alimenter, de me percevoir. Et donc c'est pour ça que en soi je le ressens plus comme un trouble que comme une maladie au quotidien, même s'il y a quand même cette idée où en tout cas il faut que je le limite quoi, ce trouble, et il faut que j'apprenne aussi à vivre avec quoi. Car la maladie, il y a l'idée vraiment de on veut en finir avec, mais d'un côté ça restera à jamais en moi. Et du coup en vrai c'est, on va dire, les deux définitions peuvent me vont entre guillemets en fait.
Et du coup, je me demandais à quel âge est-ce que tu as été diagnostiquée ? Et de quoi ? Parce que donc, TCA, je l'ai dit en introduction, ça peut être plusieurs choses. Est-ce que c'était de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie ?
Alors, disons que moi, le diagnostic est arrivé assez tard. Donc, techniquement, j'ai commencé, à avoir des troubles du comportement alimentaire première. En fait, c'est à un moment où j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Et en fait, donc j'ai commencé à perdre du poids et peu à peu, à vouloir à chaque fois en perdre trop. Et bah, malheureusement, je suis tombée dans l'anorexie. Donc, j'ai eu une période anorexique. Mais en fait, je suis arrivée à m'en sortir toute seule. C'est-à-dire que personne n'était réellement au courant. Mes proches ne s'en rendaient pas forcément compte. Ni mes amis, ni mes parents d'ailleurs. Même si j'avais le droit quand même à certaines remarques. En mode, tiens, on commence à voir, on voit vraiment tes clavicules. Ou tiens, tu manges que ça, compagnie. Et donc, en fait, j'ai eu cette période d'anorexie pendant donc, l'été entre la première et la terminale. Et après, en terminale, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'alimente, qu'il fallait que je recommence à m'alimenter. Parce que du coup, je mangeais genre à peu près 1000 calories par jour et je faisais beaucoup de sport. Donc c'est là où j'ai réalisé que je suis descendue en dessous des 50 kilos pour 1m70, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc c'est là où je suis passée dans un super contrôle, entre guillemets, de mon alimentation. C'est-à-dire que généralement la veille, je demandais à ma mère ce qu'on allait manger. Le lendemain au soir pour que je sache ce que j'allais manger le midi à la cantine. Et donc là j'ai eu une période où j'étais très très stricte sur mon alimentation. Donc en fait on peut parler un peu d'orthorexie, donc et l'idée de s'alimenter sainement et d'avoir beaucoup de règles. Et donc c'est là où il y a par exemple les catégories d'aliments, certains qu'on juge bons, qu'on juge mauvais. Et c'est là où j'ai aussi débloqué beaucoup d'habitudes alimentaires, entre guillemets, que j'ai encore aujourd'hui, qui sont donc pas naturelles. Et après ce moment-là, donc de super contrôle, bah du coup j'ai eu les crises, donc les compulsions alimentaires qui ont commencé à arriver. Et donc c'est là où finalement je suis devenue donc boulimique, parce que à côté je compensais pas mal ces crises. Sauf qu'il s'est trouvé qu'il y a eu le confinement, donc ça m'a empêchée en fait de faire trop de crises, parce que j'étais chez moi et donc je ne pouvais pas les faire devant mes parents. Et donc là pareil, je suis retombée sur un super contrôle de mon alimentation, et jusqu'à arriver en fait finalement en première année de prépa, où là par contre j'ai commencé à re-avoir des crises, et de manière très fréquente, c'est-à-dire que j'en avais au moins une par semaine, si ce n'est deux. Et là je n'avais juste genre pas le temps de compenser, que ça soit avec du sport par exemple, ou le lendemain en mangeant moins ou quoi que ce soit. En sachant que je ne me suis jamais pratiqué des techniques telles que les laxatifs ou le vomissement. Voilà, moi j'ai que compensé par entre guillemets le lendemain ce que je pouvais manger, ou par le sport. Et donc c'est à partir de ce moment-là où en fait ça allait vraiment pas. Donc mes TCA me prenaient beaucoup de temps, ils m'empêchaient de réviser pour PDS. Et donc c'est là où j'ai vu que ça, il y avait un autre problème entre guillemets par rapport à ces crises où je mangeais jusqu'à avoir mal au ventre en fait, et vraiment ça me rendait malade quoi. Et donc là je suis allée voir un psy, parce que j'en pouvais plus. Et donc là il m'a diagnostiqué pour le coup hyperphage. Et donc à ce moment-là j'ai été diagnostiquée, et après j'ai fait que en fait osciller entre des périodes d'hyperphagie, de boulimie, d'anorexie, en fonction de comment ma vie allait, si j'étais en cours ou en vacances, et avec mes parents ou dans mon appartement seul. Et donc ça a toujours été en fait un peu les montagnes russes, et ça l'est encore quoi.
Et du coup là tu viens de donner plein de signes différents. C'est quoi le signe qui t'a inquiété le plus fort, où tu t'es dit vraiment les jeux il faut que je consulte un psy, ou en tout cas il faut que je fasse attention, que je me reprenne en main, tu vois, est-ce qu'il y a un signe qui était plus fort que les autres? Parce que tout à l'heure avant l'enregistrement tu disais que t'avais perdu tes règles à un moment, tu vois, est-ce que ça peut être un signe?
C'est ça, ouais. Techniquement il y a eu deux prises de conscience. Donc il y a eu ma prise de conscience pour sortir de l'anorexie, et donc là c'est passé par le fait que j'avais passé donc en dessous de la barre des 50 kilos. J'étais en mode c'est vraiment pas normal, même si je le voyais pas forcément dans un miroir, ça me choquait pas trop. Enfin, limite ça me choquait pas en fait, ça me plaisait plutôt l'image que j'avais, qu'alors pour le coup j'étais vraiment très fine. C'est là où j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Et donc j'ai réalisé en plus a posteriori que j'avais été vraiment anorexique, parce que donc j'avais perdu mes règles, je perdais mes cheveux, j'avais tout le temps froid, je mangeais moins de 1000 calories par jour. et je culpabilisais au moindre écart ou quand je faisais pas de sport. Et sinon, par rapport à donc ma, enfin les crises d'hyperphagie, le déclic a été vraiment le fait que je comprenais pas comment je pouvais arriver à manger quelque chose que je n'aimais même pas parfois. C'est-à-dire que ça allait être un paquet de gâteaux que j'avais acheté pour tester, finalement j'aimais pas, mais je le finissais quand même jusqu'à en fait bah avoir mal au ventre quoi, en être malade. Et là je me disais que c'était pas normal parce que les personnes quand on n'aime pas quelque chose généralement on le mange pas. Et donc c'est là où je me suis dit que il y avait un gros problème quand même, vous savez de ça. Surtout que ça arrivait tout le temps en fait les vendredis soirs, donc la veille des DS. Et donc j'ai bien vu qu'il y avait un lien entre DS, c'est-à-dire stress et alimentation. Et donc je me suis dit que ouais, là aussi il y avait un problème.
Tu disais tout à l'heure que des proches ont pu te faire des remarques. Est-ce que ces remarques-là ont pu participer à ta prise de conscience, que ce soit pour l'anorexie ou même après pour la boulimie et l'hyperphagie?
C'est un peu triste, mais malheureusement je pense pas. C'est-à-dire que j'ai plutôt eu des remarques qui m'ont plutôt créé des complexes ou voire qui m'ont renfoncé. Plus dans les TCA plutôt que de m'en faire sortir. Après, ouais, si peut-être il y a un moment où c'était donc la reprise des cours au début de terminale, donc où j'étais vraiment très mince, et où je sais qu'il y a des amis, enfin des amis lointains, qui avaient dit à mes amis proches que oui, j'étais très fine, que j'avais mon ventre qui était creusé, qui avaient demandé si j'allais bien. Et donc là, ça a peut-être participé un peu à une certaine prise de conscience pour le coup.
Et je voulais revenir aussi au moment du diagnostic. Donc celui qui a été posé, c'est celui d'hyperphagie. Puisque du coup, tu disais que pour l'anorexie, c'est toi qui as mis le diagnostic a posteriori.
Ouais, enfin le psy avait quand même, quand j'avais énoncé tous les symptômes, m'avait quand même dit que oui, effectivement, j'avais bien eu une période d'anorexie.
Mais du coup, pour revenir à ce moment où le diagnostic est posé, comment tu te sens? Est-ce que tu es soulagée parce qu'il y a un mot qui est posé? Parce qu'il y a une institution médicale, entre guillemets, qui reconnaît? Est-ce que tu es en colère parce que du coup ça devient encore plus concret? Enfin, comment tu te sens?
Pour le coup, j'ai surtout senti ouais, du soulagement. Parce que de me dire que, ok, je sais entre guillemets ce que j'ai, donc maintenant il faut que j'essaye de le combattre, entre guillemets. Et puis c'était surtout vis-à-vis de ma mère, en fait, qui est donc la deuxième personne à qui j'en ai parlé, en fait, de mes troubles du comportement alimentaire, donc après ma meilleure amie. Et qui n'arrivait pas en fait à comprendre que sa fille pouvait avoir une maladie mentale, qu'elle s'en était pas aperçue, sachant que ça faisait plus d'un an. Et donc ça m'a vraiment permis de dire à ma mère, enfin de lui montrer que c'était pas normal en fait les crises que je faisais et mon rapport à l'alimentation n'était pas normal. Ouais, ça m'a permis d'expliquer, enfin entre guillemets d'être prise au sérieux par ma mère et même si ça expliquait pas tout. Je pense que ça a été une prise de conscience aussi bien pour elle que pour moi. Et ça m'a aidé de savoir que ma mère savait que voilà, que j'étais entre guillemets, enfin que je pouvais avoir entre guillemets, que certains comportements, certaines remarques pouvaient être mal interprétées par ma part ou beaucoup plus impactantes que ce qu'elle peut penser, par exemple.
Et je voulais revenir tout à l'heure, tu parlais de compulsion alimentaire. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer à quoi ça correspond, en quoi ça consiste?
Ouais, pardon. Du coup, une compulsion alimentaire, en gros, c'est ou une crise alimentaire. Enfin, ça dépend. C'est en gros, c'est la prise d'aliments pendant une période assez courte et en très très grande quantité. Et ça peut être des aliments de tout genre, mais généralement, ça va être de la malbouffe. Pour mon cas, ça va être généralement du sucré, donc des gâteaux. Mais en fait, c'est vraiment pendant un laps de temps très court. Et c'est tellement court, en fait, qu'on n'a pas le sentiment de satiété qui arrive. Ce qui fait qu'on va tellement manger que d'un coup, en fait, on va être arrêté, pas par notre envie, mais par, en fait, un mal de ventre énorme, quoi. Et juste de sentir qu'on est rempli jusqu'au milieu de la gorge, quoi. Et qu'à un moment, enfin, vraiment, enfin, à la fin, ces crises s'arrêtent soit parce qu'il n'y a plus d'aliments à consommer, soit parce que juste, pour le coup, c'est vraiment de l'inconfort pur, quoi.
Et je voulais revenir sur donc, le moment où ça arrive, surtout quand tu es en fin de première. Je ne suis pas spécialiste, évidemment, des TCA, mais tu disais toi-même que ça pouvait avoir un lien parfois avec le stress, etc. Est-ce que tu sais ce qui a déclenché le TCA quand tu es en première? Est-ce que tu as, avec le recul, tu as une idée?
Pour le coup, non, je me suis beaucoup de fois posé la question. Je ne me souviens pas de m'être dit un jour, tiens, j'ai envie de perdre du poids, tiens, j'ai envie de changer de corps et compagnie. J'ai l'impression que en fait, ça s'était fait assez naturellement en fin de première, en fait, parce que j'avais pris pas mal de poids fin de seconde, parce que j'avais fait un voyage au Chili et j'avais pris la pilule en même temps. Donc, j'avais eu les soirées avec de l'alcool, de la mabouffe. Enfin, ça avait fait un cocktail pas incroyable, quoi. Et donc, j'avais pris pas mal de poids. Mon père me l'avait fait remarquer. Et même ma famille, quoi. Et donc, je pense que j'avais jamais été très à l'aise, en fait, dans mon corps depuis toute petite. Et donc, en première, bah, je sais pas, j'ai remarqué que juste en mangeant un peu moins de fromage, je perdais du poids. Et donc, après, et bah, je pense, en fait, j'ai voulu plus vite avoir des résultats, plus rapidement, des résultats plus concrets aussi. Et donc, c'est comme ça où, en fait, à chaque fois, on veut plus. C'est-à-dire qu'au début, on enlève un aliment. Puis après, bah, j'ai rajouté un peu de sport, puis un peu plus de sport et beaucoup plus de sport. Puis j'ai enlevé d'autres aliments, des aliments que j'ai encore du mal aujourd'hui à manger. Et donc c'est, en fait, je pense que c'est vraiment... à la fin, bah, ça devient obsessionnel, quoi. On pense qu'à ça et on culpabilise. Et du coup, je me souviens pas qu'il y ait un élément déclencheur, mais c'est juste que c'est l'addition de plein de petits trucs qui ont fait que... bah après, ça a dégénéré, quoi, entre guillemets.
Et pour revenir au signe et à cet ensemble de symptômes, si on peut les appeler comme ça, qui ont fait que voilà, d'ailleurs, tu peux avoir un diagnostic, est-ce qu'il y a un moment où ta pratique de sport, le côté un peu intensif, t'a alerté? Est-ce que ça fait partie des signes où tu t'es dit ah ouais, ok, en fait, ça, c'est pas normal? Ou est-ce que ça t'a pas alerté? Est-ce que tu t'es pas posé de questions? Enfin, comment t'as géré ce truc-là de sport?
Pour le coup, le sport, ça m'a pas trop alerté parce que ça a été assez progressif. Et en fait, au début, j'aimais bien ça. Après, il y a un moment où c'est devenu clairement obsessionnel parce que je peux culpabiliser si j'en faisais pas. Je sais que ça m'est arrivé d'en faire, par exemple, le soir, tard, à 21h, dans ma chambre. Faut pas que mes parents voient que j'ai fait du sport parce que... Parce que finalement, à la fin, j'avais peur qu'on me dise que j'étais trop obsessionnelle. Enfin, par exemple, mes potes se moquaient un peu de moi en mode j'étais la fit girl qui faisait du sport, qui mangeait bien. Ce qu'ils savaient pas, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres choses derrière ça et que bah, c'était pas sain. Parce que c'est quand j'ai vu que clairement je culpabilisais juste d'avoir mangé parce que j'avais pas fait de sport, je me suis dit qu'il y avait un problème. Parce qu'on est, enfin, il faut quand même manger, quoi. Sinon clairement c'est compliqué et donc c'est là où je me suis dit que ouais, effectivement, il y avait un problème. Et après, ça n'a pas empêché que, par exemple, pendant le confinement, je faisais 6 séances de sport par semaine et une heure, et de manière vraiment intensive, donc cardio, fitness, d'ailleurs c'est ça finalement le sport que je faisais. Et là, je me suis rendu compte que clairement je culpabilisais beaucoup trop quand je faisais pas de sport. Parce que c'était à une époque où on pouvait pas bouger tous les jours, on pouvait pas marcher, donc c'était ma seule activité physique. Et clairement, ça a été après ça, en fait, j'en avais eu marre. Clairement, avoir fait 2 mois de sport 6 fois par semaine, ça m'avait saoulé, et donc j'ai commencé à arrêter le fitness. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu plus, je faisais de manière à griller des calories plus que parce que finalement j'aimais bien ça, quoi.
Et je voulais un peu revenir sur la question de ton rapport aux autres. Déjà, est-ce qu'une fois que tu as un diagnostic qui est posé, ton rapport aux autres change? Parce que tout à l'heure, tu parlais de ta mère. Dans ce que tu disais, j'ai l'impression qu'il y avait une forme de légitimité, ou en tout cas quelque chose d'une autorité médicale, une instance médicale qui légitime mon mal-être en posant un mot dessus, en posant un diagnostic. Est-ce que ton rapport avec ta mère a changé, par exemple? Est-ce que ton rapport avec d'autres personnes a changé une fois que tu as eu ce diagnostic?
Pour le coup, je pense, parce que de base, j'étais une personne qui parlait très peu de ses émotions, ou de si ça allait pas bien, j'avais pas tendance à me livrer aux autres, et je gardais souvent ça pour moi. Et en fait, avec la prépa plus les TCA, en fait, la prépa a exacerbé mes TCA, et ça m'a... il y en avait tellement trop que je pouvais plus, en fait, tout contenir, et j'avais clairement besoin d'extérioriser, d'en parler aux autres. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, où... où j'ai commencé à vraiment m'ouvrir les autres, aux autres, et donc ça a pas mal changé. Et après, le fait qu'il y ait eu donc, le diagnostic, ça m'a permis donc, déjà d'expliquer plus ce que je ressentais, ce que je vivais aux autres, et de leur dire que... Enfin, leur dire ce que j'avais vécu aussi, c'était une manière, et que maintenant j'étais entre guillemets, enfin que j'allais guérir entre guillemets, même si c'est un chemin très long vu que j'ai toujours pas fini. mais oui, clairement, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé beaucoup plus à en parler avec mes amis, parce que je voulais aussi, déjà je voulais éviter toutes les situations entre guillemets à risque qui peuvent me pousser à avoir des crises alimentaires. Et puis parce que je voulais qu'il y ait aussi parfois certains comportements que je peux avoir vis-à-vis de la nourriture, ça les expliquait, enfin comme ça mes potes étaient au courant, parce que par exemple quand on partait en vacances, j'ai pas de self-control, en fait très peu, j'arrive pas à me dire non, c'est très difficile en tout cas pour la nourriture. Et donc du coup en vacances, généralement j'avais tendance à manger sur toute la journée et je pouvais pas m'empêcher de prendre dans les placards entre guillemets. Donc c'est quelque chose dont j'avais honte, et en fait le fait de le dire à mes potes, ça m'engageait d'une certaine manière, donc je le faisais moins. Et au pire, si je le faisais, je savais que j'aurais pas eu de jugement de leur part, et qu'en tout cas ils comprenaient que c'était pas que c'était entre guillemets pas ma faute, on va dire. Mais du coup ouais, ça a pas mal changé. Et même après, vis-à-vis de mon père, j'ai pris beaucoup plus de temps à lui avouer. C'est-à-dire, je lui avouais un an après, en fait, avoir avoué à ma mère. Donc, je voyais un psy, entre guillemets, derrière son dos. Et ça a pas mal changé, parce qu'il s'est rendu compte que la prépa m'avait beaucoup plus impacté que ça. Après, malheureusement, il a tout de suite pensé que c'était que la prépa qui était en cause, que c'était la cause de mes TCA. Ce qui m'a pas mal énervée et vexée, parce que je sais que c'est difficile de comprendre ce que c'est les troubles du comportement alimentaire. Mais ça m'énervait d'un certain côté qu'ils les réduisent au fait que ça soit la prépa, alors que c'était avant la prépa. Et que certes, la prépa y participait, mais pas que. Et donc c'est en finissant la prépa et rentrant à l'ENS, et en lui disant que ça n'allait toujours pas trop, qu'il s'est rendu compte que, voilà, que j'étais que j'avais une maladie mentale. Et donc ça a été le même déclic que ma mère a eu, mais bien plus tard finalement.
Et tu disais que quand t'as compris ce qui t'arrivait, donc notamment quand t'étais un peu plus jeune au moment de l'anorexie, la première personne à qui t'en as parlé, c'est ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu lui as dit et comment est-ce qu'elle, elle a réagi ? Est-ce qu'elle a compris ? Est-ce qu'elle a...
Je lui ai toujours parlé au cours de mon parcours. C'est-à-dire qu'elle savait à un moment que je comptais mes calories. Elle savait que je culpabilisais si je faisais pas de sport. Et elle me voyait qu'il fallait... Enfin, on était partis en vacances ensemble, il fallait absolument que je fasse du sport. Et même, enfin, j'avais une alimentation très... réglée, et elle le voyait bien. Mais disons qu'elle n'a pas réalisé. Elle voyait que je perdais du poids, mais elle voyait pas. Enfin, donc ça la choquait pas. Et il y a eu à peu près, je crois, je sais plus exactement quand a été le déclic, mais je pense finalement c'était au début de la première année de prépa, ou quand je lui ai dit. En fait, quand moi j'ai réalisé que j'avais traversé une période de l'anorexie, et que je lui ai dit, et que là, oui, elle a pris conscience. Et à partir de ce moment-là, elle a été hyper compréhensive. Et à chaque fois, je pouvais en parler avec elle de tout quand j'avais mes crises. Enfin, les crises, j'ai beaucoup de mal à en parler, en tout cas sur le moment. Enfin, je n'arrive pas à en parler, clairement. On m'a déjà dit plusieurs fois, appelle quelqu'un quand t'en fais une ou t'as envie d'en faire. J'y arrive pas, clairement. Mais en parler a posteriori avec elle, ça m'a beaucoup aidée, parce que en fait ça a été un très grand pilier pendant ma prépa, pour le coup. Et donc comme il y avait aussi mes TCA pendant la prépa, elle était très compréhensive et vraiment là pour moi. Et honnêtement, je pense que je pense que les choses seraient moins bien passées si elle avait pas été là.
Et du coup, toujours pour continuer un peu dans ce même type de questionnement, est-ce que t'as l'impression, tu vois, quand t'étais fin lycée et après en prépa, et même maintenant, en tout cas toute la période de TCA, que ça a pu t'exclure dans certains aspects de la vie ?
Alors pour le coup, non, pas forcément, parce que malheureusement, entre guillemets, j'ai beaucoup associé en fait les événements sociaux à des moments de perte de contrôle en fait. Et donc à des crises, généralement. Donc d'un côté, c'était un certain réconfort, on va dire. Donc ça m'a pas exclue pour le coup. Après, j'ai eu un autre problème, c'est que en gros, j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Donc ça a été diagnostiqué super tard, enfin c'était cet été, donc avant ma fin de prépa, début rentrée à l'ENS. Et donc en fait, je digère par exemple très mal l'alcool. Donc clairement, ça a une répercussion sur ma vie sociale, parce que du coup, je buvais plus en fait d'alcool, parce que je le digère pas du tout. Et donc ça a un peu impacté, mais disons que c'était en fait... On pense que d'un certain côté, c'est relié à mes TCA, parce qu'on pense que c'est à cause des crises de compulsion alimentaire que j'ai développé, entre guillemets, le syndrome de l'intestin irritable. Enfin, qui était là, mais en tout cas que ça s'est aggravé. Parce que je l'ai vraiment vu, en fait. Il y a beaucoup d'aliments que je digère beaucoup moins qu'avant, quoi. Et donc, ça a impacté, mais ça m'a jamais empêché de sortir ou quoi que ce soit. Parce qu'au pire, ça me dérangeait pas tant que ça, finalement, de pas boire de l'alcool. Donc, et puis, je pense... Je me souviens pas, en tout cas, d'avoir... Si, en fait, si. Je me souviens d'avoir quand même évité quelques restaurants pour deux raisons. Soit parce que, justement, j'estimais que c'était trop calorique, ça rentrait pas dans mon calcul de la journée, entre guillemets, de calories. Ou soit parce que, malheureusement, j'allais pas bien et du coup, j'allais faire une crise compulsion alimentaire... toute seule, parce que c'est quelque chose dont j'ai très honte encore aujourd'hui, et clairement c'est quelque chose que je fais cacher, et on me verra jamais en tout cas je la ferai jamais devant quelqu'un.
Et je voulais revenir au moment du diagnostic, donc où après, enfin, ça va être ta mère, ton père, enfin tu commences à en parler, même si ça prend plus ou moins de temps selon à qui t'en parle. Est-ce que aujourd'hui, quand, par exemple, là t'arrives à l'ENS il y a quelques mois, je sais pas à qui t'en as parlé, si t'en as parlé, mais est-ce que tu ressens et tu as parfois encore des remarques, une forme de stigmatisation, une forme de minimisation par rapport à ce que sont les TCA?
Alors disons que depuis que je suis à l'ENS, j'en ai parlé quand même à pas mal de personnes, parce que c'est quelque chose dont déjà je suis beaucoup plus ouverte dessus, entre guillemets, et je préfère en parler aux gens, toujours pour qu'ils comprennent. Voilà, et donc j'ai pas eu... Enfin, bien sûr que du coup, il y a des potes qui ont déjà fait des boulettes, entre guillemets. Mais disons que généralement, c'était avant que je leur dise. Puis ils sont toujours... ils sont très à l'écoute et ils vont pas, enfin je sais qu'ils vont pas m'embêter avec ça, et que si j'ai besoin d'en parler, ils seront là pour écouter, et sinon ils vont pas m'embêter avec ça. J'ai ressenti aucune stigmatisation et tout, et j'en ai même parlé aussi à l'infirmière, parce que du coup je voulais trouver une nouvelle psy sur Lyon, et elle m'avait aidée. Donc pour le coup, je m'étais sentie écoutée, en tout cas par l'ENS.
Et du coup, pour revenir à un peu avant l'ENS, au moment où t'es en prépa, est-ce que tu en parles aux profs et au personnel éducatif, administratif de ton lycée?
Ouais, non, clairement, j'en ai pas parlé. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'en prépa, vraiment, la santé mentale est quelque chose de très tabou, dont on parle pas, surtout quand ça va pas bien. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que mes profs ont participé au fait que ça allait pas bien. C'est-à-dire que en deuxième année, j'ai commencé mon année et ça allait plutôt bien. C'est-à-dire que j'avais des bonnes notes et tout, et j'étais bien. Et en fait, il y a eu une sorte de semi-conseil de classe, en gros, à la moitié du semestre. Et j'étais déléguée. Et du coup, les profs, en fait, ont clairement dit que notre classe était nulle. Contrairement, en comparaison à l'année précédente. Et en fait, malheureusement, je l'ai pris beaucoup plus personnellement. Je l'ai pris personnellement, malheureusement, et en fait ça m'a replongée dans une spirale, en fait. Et donc c'est là où je suis, parce que je pensais que, en gros, à chaque fois je pense qu'aux vacances que ça va mieux, qu'il y a moins de TCA, et en fait après ils reviennent, et donc ça allait mieux, et donc ça m'a replongée, et ça m'a replongée très très fort pour le coup, parce que là j'ai vraiment, donc en octobre, ça a vraiment, ça a commencé une période très sombre pour le coup. Ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Puis du coup, j'ai pris aussi pas mal de poids parce que je faisais beaucoup, beaucoup de crises. Et donc, clairement, j'ai jamais osé dire quoi que ce soit à mes profs parce que je me sentais pas assez proche et pas assez en confiance. Et je pense que je me ferais plus juger qu'autre chose. Et c'est ça qui m'énervait aussi, c'est que sur mes bulletins, on mettait résultats en baisse. Et ça m'énervait parce que j'étais en mode, bah ouais, résultats en baisse à cause de vous, en fait. Parce que c'est vous qui m'avez miné le moral. Et c'est à cause de vous que du coup je faisais plus de crises. Et donc je passais ma vie à manger ou alors à réfléchir, à penser à la nourriture ou à trouver des moyens de compenser plutôt que de travailler. Ou alors juste j'avais pas le moral, pas la force en fait de travailler. Et donc là j'étais plutôt en mode je peux pas leur dire parce que juste je sais qu'ils comprendraient pas en fait. Et qu'il y a vraiment c'est trop tabou en fait, on peut pas la santé mentale. Et même avec mes potes de prépa, j'ai pris énormément de temps à leur dire et j'en ai dit à que deux de mes potes les plus proches. Et je comptais pas en parler à d'autres personnes parce que de toute façon, chacun est dans sa bulle, chacun a ses problèmes à gérer et j'avais pas envie non plus d'embêter les autres avec ça. Donc j'ai préféré tout garder pour moi et mon psy et ma mère du coup et ma meilleure amie.
Et du coup là après tout ce que tu viens de raconter, qu'est-ce qui fait que quand t'arrives à l'ONS tu oses te confier à l'infirmière?
Je pense que c'était parce que déjà j'avais besoin de trouver une psy et je ne savais pas trop comment procéder. Et puis c'était aussi parce que je savais qu'à l'ONS ça allait être beaucoup plus ouvert d'esprit. Je l'avais vu parce que j'y suis allée à peu près un mois et demi après la rentrée. Donc j'avais vu que... Et puis, en fait, c'était aussi dans la fiche de questionnaire médical. Ils posaient en fait la question. Et j'étais en mode, j'ai aucune raison de mentir ou quoi que ce soit. Et donc j'ai pas hésité parce que j'étais en mode, de toute manière, j'ai pas honte. C'est comme ça et je sais qu'ils le comprendront. Donc... juste un moment, il faut l'avouer. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup moins de mal maintenant à parler à mes amis. Et même ici, je viens du coup faire un podcast. Maintenant, c'est... Disons que ça va faire plus de 3 ans que je vis avec les TCA. Et donc, bien que j'aimerais vraiment ne plus en avoir, c'est quand même quelque chose qui est dans mon train de vie avec quelque chose, entre guillemets, qui partage ma vie. Donc, c'est... normal que j'en informe en fait les autres. Et c'est vraiment aussi surtout dans l'idée d'expliquer certains des comportements que je peux avoir et éviter que eux me fassent quelconque critique qui peuvent sembler anodine à n'importe quelle personne mais qui pour moi va être plus compliquée.
Parler de comment la prépa avait eu un impact sur tes TCA. Et du coup, je voudrais retourner la question. Quel impact tes TCA ont eu sur la prépa, éthiquement, sur ton moral d'une part, c'est de la santé mentale, même si ça a un impact sur le corps, c'est de la santé mentale. Et puis même sur, ta capacité à te concentrer en cours, à bien dormir, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui font que derrière, t'es plus ou moins bien et sereine en prépa ou pas.
Ouais, ça a clairement impacté ma prépa. Je pense que ça l'a corsé, quoi, entre guillemets. Mais parce que, en tout cas, quand on a des desserts, on pense à peu près H24 à la nourriture. Donc c'était un gros sujet ça occupait beaucoup de mes pensées. C'est-à-dire qu'à la pause de 10h, je réfléchissais déjà à la pause de midi. Et l'après-midi, je réfléchissais déjà au repas du soir et au repas le lendemain. Il y a des nuits où je me couchais et je perdais, 30 minutes, une heure à réfléchir à comment j'allais planifier mes repas la veille, comment j'allais équilibrer mes repas, quelles courses je devais faire et compagnie. Donc clairement, c'est une grosse prise de temps, perte d'énergie et ça occupe beaucoup les pensées. Et pareil pour le sport, où le fait de me dire « Tiens, j'ai mangé ça à la cantine ce midi, donc il faut que je mange ça le soir et que je fasse ce sport-là pendant cette durée-là et ça ira bien ». Surtout que après, quand j'ai eu beaucoup de crises Ça a m'amené un inconfort physique déjà parce que c'est jamais agréable, parce que ça, en fait, ça perturbe énormément la digestion et compagnie. Et en fait, beaucoup le mental, parce que comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est-à-dire que ma confiance en moi est énormément reliée à mon apparence physique. Et si je vais un peu trop manger, en fait, je souffre aussi de dysmorphophobie, donc je vais pas me voir comme je suis réellement quand je me regarde dans un miroir. Je vais généralement me trouver plus grosse que la réalité, entre guillemets. Et donc, par exemple, après les crises, je me trouvais moche, j'avais pas de confiance en moi, donc je me sentais pas bien. Mon moral était en fait relié clairement à mon apparence. Et donc je sais que par exemple en deuxième année, j'avais tendance à porter beaucoup de vêtements larges, à me cacher pas mal, parce que du coup j'avais pris du poids et je me sentais moins à l'aise, beaucoup moins confiante. Et donc clairement ça a impacté mon travail, quoi, parce que j'étais moins sûre de moi dans tout ce que je faisais. Puis aussi il y a des moments où j'allais tellement mal que juste j'avais pas la force en fait de travailler, quoi. Et donc après je culpabilisais de pas travailler, je culpabilisais de pas non plus faire de sport, et en fait à la fin c'est totalement un cercle vicieux. Et en tout cas en prépa j'avais tellement la tête de temps que je suis pas arrivée à en sortir jusqu'à je pense à peu près les écrits. À partir du moment où il y a eu les écrits, on est sorti un peu du cadre. Et donc c'est là où j'ai commencé à... J'avais plus de temps donc pour reprendre le sport et pour... aussi je revenais en fait, je retournais vivre chez mes parents parce que j'avais vécu 2 ans, du coup je vivais seule en appart pendant mes 2 années de prépa. Et donc c'est là aussi où je retournais chez mes parents, donc il y a eu une alimentation qui n'était plus contrôlée par moi. Et du coup ça m'a permis d'avoir moins les pensées, de moins réfléchir et de me prendre la tête avec ce que je devais manger. Et donc du coup de juste travailler, et puis aussi il y avait moins de pression, donc moins de stress. Et parce que clairement, quand on dit manger ses émotions, oui, au début j'étais en mode non, ça correspond pas du tout, ça ne me correspond pas. Et en fait si, clairement, je mange beaucoup trop mes émotions, et je le vois surtout en fait cette année, où dès que je vais avoir des émotions assez fortes, ça peut aussi bien être de la joie que de la tristesse, ou du stress. Le stress, ça impacte beaucoup. Je vais clairement, ça va clairement avoir un impact sur mon alimentation et sur ma confiance en moi aussi. Et comme tout est relié, que j'arrive pas en fait à séparer l'esprit du corps, comme on dit. Ça a clairement un impact.
Et là, tout à l'heure, tu parlais de dysmorphophobie, quelque chose qu'on n'avait pas du tout abordé depuis le début. Est-ce que tu as l'impression que c'est arrivé au même moment que les TCA, donc que l'anorexie ? Et est-ce que aujourd'hui c'est encore quelque chose dont tu souffres ?
Alors, il y a moyen que ça soit arrivé avec les TCA, mais je pense que c'était aussi un peu avant. Parce que je me suis toujours trouvée, entre guillemets, trop grosse, alors que honnêtement, pas trop. Et en fait, disons qu'il y a aussi mon père qui participait à ça. C'est-à-dire que quand donc, j'avais pris du poids en seconde, il s'était pas gêné pour me le faire remarquer, en me disant que mes cuisses étaient trop grosses, que j'avais un double menton, et ce qui sont maintenant en fait des complexes que j'ai toujours en fait. Et du coup je pense qu'il y avait de ça, et même encore aujourd'hui clairement j'ai la dysmorphophobie. En fait je le vois à travers le miroir, c'est-à-dire que je vais me regarder, puis après je vais me regarder dans un miroir, et la perception est différente. Finalement, dans le miroir par exemple, je vois que mes cuisses se touchent pas, alors que quand je regarde mes cuisses, je les trouve énormes. Enfin pareil, mon psy m'avait fait un test de prendre un fil et de faire en fait le contour de ma cuisse, enfin dans le vide, de visualiser en fait quelle épaisseur ma cuisse faisait. Et bien évidemment j'avais surestimé en fait la circonférence de ma cuisse en fait. Et en fait beaucoup de personnes qui souffrent de ça souffrent de dysmorphophobie, parce que comme tout est une question souvent d'apparence, les deux sont très souvent reliés.
Et pour revenir à ta scolarité à l'ENS, donc tu disais que tu en avais parlé à l'infirmière, que tu avais rempli sur le petit papier où on peut mettre les problèmes et autres qu'on a. Est-ce que tu en as parlé à des personnes du corps enseignant ou même des personnes du corps administratif ? Je sais qu'il y a par exemple Thibaut Chambrière qui est le responsable handicap. Enfin, est-ce que c'est des gens à qui tu en as parlé ?
Non, parce que j'en ai pas ressenti le besoin, parce que comme ça impacte quand même moins, Enfin, mais ça m'impacte moins quand même dans ma vie à l'ENS et dans mes études à l'ENS que dans ma vie pendant la prépa et dans mes études. J'en ai pas ressenti le besoin. Puis je me sens assez encadrée par mes parents, mes amis, mon psy. Donc j'ai eu, enfin ma psy maintenant, que j'ai pas ressenti le besoin d'en parler.
Et justement, là, tu parlais de ta psy. C'était une des questions que j'avais par rapport à la question des aménagements qui sont mis en place. Donc, que ce soit aménagement par l'école, mais en l'occurrence, tu dis que tu n'as pas forcément trop parlé, ou juste aménagement mis en place par toi-même. Comment, enfin, parce que donc là, tu vois une psy maintenant que tu es à Lyon, mais tu en voyais du coup déjà un ou une, je sais pas, quand tu étais à Paris, enfin, donc au lycée puis prépa. Qu'est-ce qui a fait que. Enfin, comment dire. Enfin, tu disais qu'en plus tes parents n'étaient pas forcément au courant que tu voyais un psy à ce moment-là quand tu as commencé. Enfin, comment on entreprend cette démarche d'aller voir un psy alors que nos parents ne sont pas au courant? Comment tu as trouvé ton psy? Enfin, tu vois.
Ouais, ok. Ouais, du coup, en soi, ma mère était au courant pour mon psy, du coup. Et en fait, donc elle savait que je souffrais de troubles du comportement alimentaire. Et donc c'était au début en fait de la deuxième année de prépa quand j'ai replongé à cause de mes profs et là je lui ai dit maman ça va pas, il faut que j'aille voir quelqu'un et même c'est elle qui m'a conseillé aussi de voir quelqu'un parce que en fait elle pouvait m'entendre parler mais elle savait jamais, enfin de toute façon à chaque fois que on parle, enfin que je parle de mes TCA à quelqu'un, généralement la personne ne sait jamais trop quoi répondre parce que il y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Mais il peut avoir des réponses qui impactent plus et généralement c'est difficile de le savoir ou pas et même de se mettre à la place de quelqu'un quoi. Et du coup je savais que je voulais aller voir quelqu'un spécialisé dans les TCA. Donc j'étais allée voir mon infirmière du lycée et donc je lui avais dit parce qu'en fait elle était vraiment adorable pour le coup et hyper à l'écoute. Et du coup elle m'avait en fait donné l'adresse d'un centre étudiant, donc c'est le centre Collières sur Paris. Et donc c'est comme ça que j'ai... mon psy et en plus en même temps en parallèle je me faisais aussi suivre par un médecin parce que il s'avérait que en fait ouais ça pouvait avoir des impacts physiques quoi, genre les carences ou quoi que ce soit. Et du coup après donc quand je suis arrivée à Lyon je pensais que j'avais plus besoin de psy, enfin en tout cas je voulais pas du coup pas garder mon psy sur Paris parce que ça aurait été trop compliqué, puis en général même en fait il était très demandé donc du coup j'avais malheureusement j'avais pas des séances assez régulièrement. Et donc en arrivant sur Lyon, au début j'ai été en mode ça va mieux, donc j'ai pas besoin de trouver une autre psy. Et finalement ça n'allait pas. Et donc c'est clairement là, en fait c'est mon père cette fois-ci qui m'a plutôt poussée en fait, à en parler. Alors que lui est de base pas trop dans l'idée des psy, de... Enfin, disons qu'il est pas forcément dans l'idée d'aller voir un psy ou pas. Mais là, c'est quand même lui qui m'avait plutôt... Enfin, c'est mes parents, et surtout lui qui m'avait poussé à prendre rendez-vous, quoi.
Et est-ce qu'en plus de tout ce côté thérapie, donc psy, il y a d'autres choses que tu as pu mettre en place parce que, enfin, à ma connaissance, il n'existe pas de traitement contre les TCA. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'aide que tu as pu mettre en place toi-même ou via d'autres personnes qui te font du bien ou qui t'aident?
Pas forcément d'autres personnes. Après, moi, j'ai mis des choses en place dans mon quotidien pour limiter, entre guillemets, mes crises. C'est-à-dire que je vais jamais avoir, par exemple, de gâteau industriel chez moi. Parce que je sais très bien que si j'en ai, je dégomme tout le plaquet. Donc, je vais avoir aucun, en fait, aliment à risque, entre guillemets. Donc, ni de chips, par exemple. Toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui pourrait me pousser à la compulsion, en fait, j'en ai pas. Comme ça, au moins, je n'y pense pas. Après, j'ai essayé de mettre d'autres moyens en fait en place pour essayer de, entre guillemets, de guérir. Parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'habitudes alimentaires. Donc, pour donner des exemples, par exemple, j'arrive pas à manger des féculents le soir. Pour moi, c'est genre, c'est inimaginable de manger une assiette de pâtes le soir ou du riz. Juste je n'y arrive pas. Ça, c'était avant mes TCA. En fait, c'était pour le coup dans ma famille, enfin avec ma mère on a toujours eu l'habitude de manger assez léger le soir, mais c'est quelque chose que en fait je n'arrive pas et clairement je vais culpabiliser si je mange des féculents le soir. Ou par exemple les produits laitiers, je n'arrive pas à en manger plus de deux par jour, c'est-à-dire que c'est par exemple un yaourt à midi et un bout de fromage le soir. Et pareil, ça va être aussi hyper contrôlé. Le midi, en dessert, je vais manger un fruit. Et le soir, je vais manger un produit, un yaourt par exemple, avec un gâteau. Mais que j'aurais fait et pas acheté généralement. Donc ça, j'essaye de les déconstruire. Donc, par exemple, avant les produits laitiers, j'étais à un produit laitier par jour. Maintenant, je suis à deux. Mais c'est vraiment difficile parce que ça demande beaucoup de volonté, en fait. Et ça entraîne pas mal de culpabilité, du coup, de transgresser, entre guillemets, ces règles que j'ai depuis plus de 3 ans, en fait. Et surtout que je ne sais pas, en fait, comment elles sont apparues. Généralement, on me demande, mais pourquoi ? Et je ne sais pas. Elles sont comme ça et donc c'est difficile en fait de les déconstruire. Mais donc j'essaye peu à peu, mais voilà. Et pareil aussi niveau sport, pour le coup depuis que je suis à l'ENS, je fais plus trop de fitness. Donc ça, je suis arrivée à enfin arrêter pour faire plutôt un sport qui me plaît. Du coup, je fais du volley. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment l'idée de je fais le sport parce qu'il me plaît et pas pour griller des calories, quoi. Même si généralement, après une crise, le lendemain, je vais aller à la salle de sport pour compenser, quoi.
Et est-ce que tu as l'impression que, de manière générale, ça a pu te faire renoncer à certains buts, certains objectifs, certains rêves dans ta vie ?
Honnêtement, je pense pas que ça m'ait fait renoncer à quoi que ce soit. Après, juste, ce qui m'énerve, c'est de pas... C'est-à-dire que dès que je vais manger à l'extérieur et compagnie, ça va être juste plus compliqué. Et donc, en fait, je m'empêche, entre guillemets... en fait, comme la nourriture me prend trop la tête, c'est ça qui me bloque un peu. Mais non, je pense pas.
Et je voulais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais de l'alcool. Alors qu'évidemment, ce que tu disais n'est pas lié que au TCA, enfin, ton rapport à l'alcool. Donc, qui est aussi lié au syndrome de l'intestin irritable. Outre l'alcool, enfin, en plus de l'alcool, tout ce qui va être des étudiantes, etc., est-ce que ça a eu un impact dessus ? Est-ce que ça a toujours un impact ? Comment tu gères un peu ta vie étudiante ? Donc, ce côté où d'une part tu contrôles pas forcément ce que tu vas manger ou ce que tu vas boire, le fait que ça soit potentiellement assez accessible, la question du rythme de vie et tout, enfin, comment tu gères ?
Au début de l'année, ouais, on avait pas mal d'apéros et compagnie, donc ça a été assez compliqué, parce que du coup, je pouvais jamais prévoir ce que je mangeais. Donc, il y avait un peu de culpabilité, mais d'un côté, j'étais tellement dans l'euphorie de l'intégration que je réalisais pas trop non plus. Parce qu'à côté, en fait, je faisais quand même pas mal de soirs parce que je voulais découvrir tous les sports. Donc j'en faisais même un peu trop, peut-être. Et il y a même des soirs où je me souviens que j'avais pas mangé beaucoup en apéro et en fait, flemme de me faire à manger ou juste j'avais pas à manger. Et donc disons que là, je pense que je me suis, entre guillemets, sans me rendre compte, restreinte. Et donc je me suis pris un gros revers de médaille en octobre. Après... parce que du coup là j'ai plutôt craqué entre guillemets surtout. Mais du coup ça m'a pas réellement impacté parce que je réfléchissais pas trop sur le moment. Après là maintenant en fait avec la MAP, parce que du coup je suis inscrite à la MAP, ça m'oblige entre guillemets, enfin ça me force à consommer certains légumes et tout, et donc à planifier mes repas. Et tout, et en fait ce que je fais aussi pour me libérer d'une décharge mentale, j'avais oublié de préciser dans les méthodes, ça c'est que je planifie en fait mes repas sur la semaine, en fonction des légumes que j'ai comme ça, et je sais en fait à l'avance ce que je vais manger, et beaucoup de mes potes se moquent de moi, mais au moins ça me permet d'aller faire juste mes courses une fois, et de pas y aller tout le temps, et de pas acheter trop de trucs en fait, et pas acheter de trop de nourriture justement, et aussi de du coup le soir de pas avoir de pas réfléchir à ce que je vais manger, quoi.
Enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'œuvre au sens très large du terme ? Donc ça peut être un film, une musique, un compte Instagram, un livre, peu importe, qui soit t'a aidé parce que ça parlait de ta différence et ta maladie, ou soit simplement que tu apprécies et que tu voudrais partager aux auditeurs et auditrices.
Alors du coup, j'ai deux références. Donc il y a une vidéo YouTube de France TV / qui s'appelle « Anorexie, boulimie, hyperphagie versus cliché », qui est hyper intéressante en fait pour comprendre les TCA en général, sans forcément qu'il y ait de catégorisation entre justement l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a
bah, du coup, plein de points de vue et dans lequel où moi je me suis pas mal reconnue, ça varie d'un individu à un autre. Genre, par exemple, le fait de se nourrir à travers les écrans, genre de scroller sur Instagram, de la bouffe vraiment à longueur de journée au lieu de m'alimenter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient en fait chez beaucoup de personnes, donc on se sent un peu moins seul. Et sinon, il y a une autre recommandation, donc c'est un livre, ça s'appelle Jour sans fin de Delphine de Vigan. Et là, par contre, c'est à propos de l'anorexie et en prépa. Donc c'était aussi. Bah, je me suis aussi pas mal reconnue et ça permet vraiment de comprendre les mécanismes d'une personne anorexique, en tout cas ce qui se passe dans la tête de la personne et que c'est vraiment au-delà de l'image corporelle et d'une volonté de maigrir.
Merci beaucoup pour avoir répondu à ma question. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était En Différence, une émission qui s'appelle Handicap Invisible. On est sur Transistor et peut-être par Marie-Claire.